Chapitre 6 L'île magique. Le lendemain matin, tout le monde se levait tôt, pressé de se remettre en route. Nous avions encore toute une journée de voyage, en majeure partie par mer, avant d'atteindre notre destination. Après un rapide petit déjeuner, notre troupe quittait donc le Grand Hôtel, à bord de 3 autres taxis, et mettait le cap sur le port d'Oslo. Là, nous montions à bord d'un petit vapeur côtier, et l'on pouvait entendre Nounou déclarer « Je suis sûr qu'il prend l'eau, on va tous servir de nourriture aux poissons avant la fin de la journée. » Elle disparaissait alors dans le salon des passagers jusqu'à la fin de la traversée. Nous adorions cette partie du voyage. Le vaillant petit bateau, avec son unique et haute cheminée, avançait dans les eaux calmes du fjord pour ensuite longer la côte sans se presser, s'arrêtant environ toutes les heures à de petits débarcadères en bois où des groupes de villageois ou d'estivants attendaient, pour accueillir des amis ou prendre des paquets ou du courrier. À moins d'avoir vous-même navigué ainsi sur le fjord d'Oslo par une belle journée d'été, vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Il est impossible de décrire la sensation de paix absolue et de beauté qui vous envahit. Le bateau fait des zigzags parmi d'innombrables îlots minuscules. Sur certains se dressent de petites maisons en bois peintes de couleurs vives, mais beaucoup sans arbres ni maisons ne sont que des rochers nus. Ces rocs granitiques sont tellement lisses et polis qu'on peut s'étendre dessus en maillot de bain pour bronzer, sans même avoir besoin d'une serviette sous les reins. Nous apercevions des filles aux longues jambes et des garçons de haute taille en train de se rôtir sur les rochers des îles. Il n'existe pas de plage de sable dans le fjord. Les rochers vont jusqu'au bord de l'eau qui est immédiatement profonde. Il en résulte que tous les enfants norvégiens apprennent à nager quand ils sont tout petits, car si on ne sait pas nager, il est difficile de trouver un endroit où se baigner. Parfois, lorsque notre petit navire se glissait entre deux îlots, le chenal était si étroit que nous pouvions presque toucher les rochers de chaque côté. Nous croisions des barques et des canoës remplis d'enfants aux cheveux de lin, à la peau dorée par le soleil, et nous leur faisions des saluts de la main en regardant leurs minuscules embarcations rouler violemment dans le sillage de notre bateau. En fin d'après-midi, nous arrivions enfin à l'île de Tjøme, terme de notre voyage. C'était là que nous emmenait toujours notre mère. Dieu sait comment elle avait découvert cet endroit, mais pour nous, c'était le plus merveilleux du monde. À 200 mètres environ du débarcadère, le long d'une étroite route poussiéreuse, se dressait un simple hôtel de bois peint en blanc. Il était tenu par un couple de gens âgés, dont je me rappelle parfaitement le visage, et qui nous accueillaient chaque année comme de vieux amis. Tout dans l'hôtel était extrêmement primitif, à l'exception de la salle à manger. Les murs, le plafond et le sol de nos chambres étaient faits de simples planches de pain non vernies. Dans chacune d'elles, il y avait une cuvette et un pot d'eau froide. Les toilettes étaient situées dans une cabane en planches disjointes à l'arrière de l'hôtel, et dans chaque stall, il y avait simplement une planche percée d'un trou. Il fallait s'asseoir sur le trou qui donnait sur une fosse profonde de 3 mètres. Si on se penchait sur le trou pour regarder, on voyait souvent des rats détalant dans la pénombre. Tout ceci nous paraissait parfaitement naturel. Le petit déjeuner était le meilleur repas de la journée à notre hôtel, et il était servi sur une gigantesque table au milieu de la salle à manger. Chacun se servait soi-même. Il y avait bien le choix entre 50 plats différents. De grands pots de lait que les enfants norvégiens boivent à tous les repas, de la viande froide, bœuf, veau, jambon ou porc, des maquereaux pochés, froids, en gelée, des filets de harengs au vinaigre, des sardines, de l'anguille fumée, des œufs de cabillaud, une grande jatte remplie d'œufs à la coque, des omelettes froides au jambon, du poulet froid et du café chaud pour les adultes, de petits pains croustillants tout chauds sortant du four de la cuisine de l'hôtel et que nous mangeons avec du beurre et de la confiture d'Erel. De la compote d'abricots et 10 sortes différentes de fromages, y compris, bien entendu, l'omniprésent Kjøttost, ce fromage de chèvre norvégien, de forme haute et de couleur brune que l'on trouve pratiquement sur toutes les tables dans le pays. Après le petit déjeuner, nous allions chercher nos maillots de bain et tout notre groupe, 10 en tout, s'empilait dans notre bateau. Tout le monde possède un bateau quelconque en Norvège. Personne ne reste à flâner devant l'hôtel. Personne non plus ne s'assied sur la plage, car il n'y a pas de plage où s'asseoir. Au début, nous n'avions qu'une barque à rames, mais c'était une très bonne embarcation. Nous y tenions tous à l'aise et il y avait place pour 2 rameurs. Ma mère prenait une paire d'avirons, mon demi-frère prenait l'autre, et nous étions partis. Ma mère et le demi-frère, il avait environ 18 ans à l'époque, étaient tous deux d'excellents rameurs. Leurs gestes étaient parfaitement synchronisés et les rames faisaient clic-clic-clic-clic dans leur tollé en bois. Les rameurs ne s'interrompaient pas une seule fois durant le long trajet qui durait 40 minutes. Quant à nous, assis dans le bateau, nous laissions tremper nos doigts dans l'eau translucide, cherchant des yeux les méduses, Nous filions en travers du goulet et glissions dans d'étroits chenaux entre deux îlots rocheux, mettant le cap comme toujours sur une minuscule plage de sable tout à fait secrète, située sur une île lointaine et que nous étions les seuls à connaître. Au début, nous avions besoin d'un endroit comme celui-là où nous pouvions patauger et jouer, car ma plus petite sœur n'avait qu'un an, la suivante trois, et j'étais moi-même âgé de 4 ans. Les rochers tombant à pic dans une eau profonde n'étaient pas pour nous. Tous les jours, régulièrement, durant plusieurs étés, nous nous dirigeâmes vers cette minuscule langue de sable secrète, sur notre minuscule île secrète. Nous y passions 3 ou 4 heures à nous amuser dans l'eau et dans les mares, restés au creux des rochers, et attraper d'extraordinaires coups de soleil. Quelques années plus tard, lorsque nous fûmes tous un peu plus âgés et que nous eûmes appris à nager, la routine quotidienne changea. Ma mère avait alors fait l'acquisition d'un canot à moteur, un petit bateau en bois peint en blanc qui ne tenait pas très bien la mer, enfonçait beaucoup trop dans l'eau et était propulsé par un moteur à un seul cylindre, n'offrant guère de sécurité. Le demi-frère était le seul à pouvoir faire marcher ce moteur, qui démarrait très difficilement. Il était obligé chaque fois de dévisser la bougie et de verser de l'essence dans le cylindre. Il faisait ensuite pivoter énergiquement le lanceur et, avec un peu de chance, après avoir beaucoup toussé et crachouillé, le moteur démarrait enfin. Lorsque nous fîmes l'acquisition du canot à moteur, ma plus jeune sœur avait 4 ans, j'en avais 7, et nous avions alors tous appris à nager. Grâce à ce nouveau bateau tellement excitant, nous pouvions nous risquer beaucoup plus loin en mer et, chaque jour, nous nous aventurions très au large dans le fjord à la recherche d'une île différente. Il y en avait des centaines parmi lesquelles choisir. Quelques-unes étaient très petites, pas plus de 30 mètres de long, d'autres assez grandes, atteignaient peut-être 800 mètres. Nous nous amusions comme des fous à explorer chacune de ces îles avant de plonger du haut des rochers. On trouvait sur ces îles des carcasses en bois de bateaux naufragés, de grands os blanchis, était-ce des ossements humains, des framboises sauvages, des moules collées aux rochers, et sur certaines, des chèvres aux longs poils rudes et ébouriffés. Et même des moutons. De temps à autre, lorsque nous étions loin au large, au-delà de la barrière des îles, le gros temps nous surprenait, et c'était alors que ma mère prenait le plus de plaisir à naviguer. Personne, pas même les tout-petits, n'était muni de bouées de sauvetage à cette époque. Trempés jusqu'aux os, nous nous cramponnions au bord de notre drôle de petit canot blanc qui taillait sa route parmi d'énormes vagues frangées d'écume, tandis que ma mère tenait tranquillement la barre. À certaines occasions, je vous assure, les vagues étaient si hautes que lorsque nous glissions dans le creux, le monde entier disparaissait à notre vue. Le petit bateau remontait ensuite, reposant presque à la verticale sur l'arrière, jusqu'à ce que nous ayons atteint la crête de la lame suivante, et on avait alors l'impression d'être au sommet d'une montagne écumante. Il faut être d'une grande habileté pour manier un pareil canot par mer forte. Il peut facilement chavirer ou embarquer si l'avant ne fend pas les grandes lames déferlantes sous le bon angle. Mais ma mère savait exactement comment s'y prendre et nous n'avions pas peur. Nous nagions en pleine euphorie, tous autant que nous étions, sauf notre pauvre nounou, qui souffrait le martyr comme d'habitude. Le visage enfoui dans ses mains, elle suppliait à haute voix le Seigneur de sauver son âme. En début de soirée, nous partions presque toujours à la pêche. Après avoir ramassé des moules comme à pas sur les rochers, nous montions à bord du bateau à rame ou du canot à moteur et nous mettions le cap sur un endroit approprié pour aller y jeter l'ancre. L'eau était très profonde et il nous fallait parfois laisser filer 60 mètres de ligne avant de toucher le fond. Nous restions assis, silencieux, tendus, attendant une touche. Et j'étais toujours stupéfait de constater que la plus petite touche au bout de cette longue ligne se transmettait le long du fil au doigt qui le tenait. « Sa mort !» hurlait l'un d'entre nous en ferrant d'un coup sec. « Je l'ai, c'est un gros, il est énorme !» Venait ensuite la joie de tirer sur la ligne, une main après l'autre, en regardant par-dessus bord dans l'eau translucide pour voir, à mesure qu'il remontait vers la surface, de quelle taille était en réalité le poisson. Cabillaud, merlan, aiglefin, maquereau, nous attrapions tout. Et, triomphant, nous portions nos poissons à la cuisine de l'hôtel où la cuisinière, une grosse femme, joviale, nous promettait de nous les préparer pour le dîner. Je vous le dis, mes amis, c'était le bon temps.